Bien, chers amis, c'est mon privilège et ma responsabilité aussi de vous communiquer le message que Dieu a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous dans le cadre de ce culte. Nous voulons ensemble, vous et moi, ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Exode. Je vous encourage vivement à suivre dans votre Bible la lecture des versets 17 à 22 du chapitre 13 du livre de l'Exode. Exode 13, versets 17 à 22. C'est une lecture que nous avons déjà faite hier soir ensemble. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Succoth et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le thème qui a été le sujet d'une interpellation de la part de Dieu durant ces précédentes soirées est donc celui de la formation de l'homme spirituel, ceci en particulier à partir des 10 premières années de l'histoire de David, à compter du moment où pour la première fois il fut oint par le juge et prophète Samuel. Et nous avons été sensibles au fait que Dieu poursuit dans chacune de nos vies, à partir du moment, bien entendu, de notre régénération, de notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, indispensable, on ne naît pas chrétien, on le devient. À partir de là, Dieu poursuit donc un objectif de perfectionnement de l'obéissance au moyen de tests variés. Il désire nous apprendre à être toujours plus dépendants de lui, et nous avons pu remarquer comment les 10 années entre 20 ans et 30 ans dans la vie de David avaient été des années difficiles. Pour exercer concrètement la royauté, il lui avait fallu connaître dans sa vie au moins une 10aine de tentatives d'assassinat de la part de son prédécesseur, le roi Saül. Nous avons vu, notamment avant-hier soir, comment, au lieu de voir simplement derrière Saül, le diable, à l'œuvre pour détruire David, pour l'empêcher d'accéder à la royauté et de devenir un de ces maillons dans la chaîne qui conduisait vers Jésus-Christ, un maillon essentiel d'ailleurs, il fallait y voir la personne de Dieu. Dieu se cachait derrière le roi Saül. Non pas pour détruire, bien entendu, mais pour former, pour débusquer le Saül qui était caché au fond du cœur de David, de manière à ce que ce cœur soit purifié, livré, et que David puisse servir à l'accomplissement des desseins de l'Éternel, comme le disent les Écritures. Alors ce matin, nous voudrions nous pencher sur un autre exemple des Écritures pour tirer d'autres enseignements quant à la formation de l'homme spirituel. Nous venons de lire ces versets 17 à 22 d'Exode 13, un court épisode qui inaugure un long pèlerinage du peuple d'Israël dans le désert. Nous pouvons essayer d'imaginer ce qui a dû se passer alors que le peuple d'Israël attendait depuis des centaines d'années, plus de 4 siècles, le moment où la promesse faite à Abraham notamment s'accomplirait et qu'enfin il aurait un pays à lui, une terre à lui, et un pays dont l'Éternel se plaisait à répéter qu'il serait le pays où coule le lait et le miel. Voilà qu'enfin, par cette délivrance extraordinaire liée à la souveraineté de Dieu, des griffes de l'Égypte, ce pays maintenant était à portée de la main. Quelques dizaines de journées, tout au plus, séparaient l'Égypte des frontières de ce territoire attendu et convoité. Et puis il y a, dans le texte, si vous avez ce texte sous vos yeux, le verset 18. Le verset 18 qui, pour le peuple d'Israël, bien moins informé que nous qui avons les Écritures sous les yeux, il y a ce que j'aime appeler un « mais » énigmatique de Dieu. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Vous les aimez, ces mais-là, ces mais énigmatiques, ces détours incompréhensibles. J'imagine donc les futurs princes d'Israël, les leaders, les chefs en puissance, qui avaient quelques connaissances de la géographie et des itinéraires qui menaient vers le pays où coule le lait et le miel, allant vers Moïse après s'être consultés les uns et les autres, s'être interrogés même, et disant à Moïse, mais Moïse, montre voir un peu ta carte Michelin. Il semble que tu n'aies pas le même numéro de carte que nous. Ou bien, serait-ce une question de soleil qui aurait frappé un peu trop fort? Peut-être n'as-tu pas pris les précautions qui s'imposaient. Depuis quand, Moïse, va-t-on de Paris à Lille par l'autoroute du Sud? Explique-nous. Quelle est ta logique dans ce domaine? Et Moïse, simplement au milieu du brouhaha des palabres de ses syndicalistes, de faire un signe. Un signe vers le ciel. Et cela était suffisant. Ce n'est pas votre carte Michelin qui compte ni la mienne. Mais c'est Dieu qui trace l'itinéraire. Or, la nuée, je le sais, je ne le comprends pas très bien moi non plus, mais la nuée qui indique la présence de Dieu et la direction à suivre, c'est vrai, va vers le nord en passant par le sud. Alors, moi, Moïse, simplement parce que j'ai été déprogrammé déformé dans le désert auprès de mes brebis par le travail de Dieu dans mon cœur, j'ai appris à mettre ma logique au panier pour m'inscrire dans la logique de Dieu. Je ne comprends pas, mais je fais confiance. Alors, comme je le disais il y a un instant, nous avons le privilège d'avoir dans ce texte, en tout cas, un ou deux éléments de réponse à ce mais énigmatique, puisque ce mais du verset 18 est précédé de la réponse de Dieu au verset 17, lorsqu'il nous est dit que Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, la grande route d'ailleurs des invasions qui longeait la Méditerranée, notamment le territoire de Gaza, si vous voulez, actuellement. Et Dieu dit, il donne la raison, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu connaissait son peuple, beaucoup mieux que son peuple ne se connaissait lui-même. Et la première des raisons du détour était liée à l'immaturité d'Israël. Israël, en quelque sorte, n'était pas encore homme spirituel. Et à cause de cela, incapable de supporter le choc avec les Philistins, qui, on le sait, par l'archéologie notamment, étaient très aguerris, bien plus avancés que d'autres en technique militaire, possédaient des chars de fer. Et puis, il y avait, bien entendu, les ancêtres d'un certain Goliath, qui poserait quelques problèmes plus tard au peuple d'Israël. Et ceci m'amène simplement, ce matin, dans ce qui est aussi la conclusion, à notre thème, à vous présenter de la part de Dieu cette affirmation essentielle. Les petites souffrances, des détours et des lenteurs incompréhensibles valent mieux que les grandes souffrances, des défaites inutiles. Dans le langage de la Nouvelle Alliance, ceci se traduit dans le texte d'1 Corinthiens 10, 13, par ces mots connus, je suppose, par cœur de bon nombre d'entre nous, aucune tentation, et ceux qui étaient là, durant l'étude d'avant-hier, se souviennent qu'il y a un mot grec qui se traduit tantôt par tentation, tantôt par épreuve. Et nous pourrions effectivement ici le traduire des deux manières. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation et l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est sage lorsqu'il nous fait passer par des chemins incompréhensibles à notre logique humaine. Ces mais énigmatiques, ces détours, nous disons, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Ta logique à toi, percute-t-elle ma logique ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi cette perte de temps ? Pourquoi ce détour ? Pourquoi n'est-il pas possible de grandir plus vite, d'avancer plus vite, d'être stable plus vite, d'être débarrassé de certaines situations plus vite, Seigneur ? J'aimerais tant pouvoir aller vite. Et Dieu susurre à notre cœur, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a sur ton chemin, si tu vas trop vite, des Philistins. Et tu n'es pas assez fort, tu n'es pas encore assez équipé, tu te connais encore trop mal, tu as encore trop confiance en toi pour subir une défaite cuisante face à un ennemi trop fort pour toi. Nous avons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 28, une parabole, une des rares véritables paraboles de l'Ancien Testament. Et elle dit ceci, cela intéresse ceux qui ont derrière eux un passé de cultivateur, puisque c'est la parabole du cultivateur. Verset 23 d'Ésaïe 28, prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et herse-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, les pôtres sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On doit broyer le blé pour avoir du pain. On le foule, le froment pour avoir du pain, mais on se garde bien de le fouler sans fin. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, c'est-à-dire du Dieu souverain. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Trois leçons à tirer de cette parabole dans le cadre de notre réflexion sur l'homme spirituel à partir d'Exode 13. La première, des versets 23 et 24, Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Ceux et celles qui, parmi nous, étaient là durant les précédentes soirées, ont pu se dire « Mais le programme de l'éducation spirituelle qui mène à la stature, à la maturité, à l'équilibre de l'homme spirituel est un sombre programme. C'est un programme difficile. Nous ne pouvons qu'avoir peur. Si nous devons nous identifier à David et à ces 10 années si difficiles, confrontés à Saül, cet homme que nous avons décrit avec son caractère totalement perverti par sa désobéissance. Mais la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a aussi un cycle dans nos vies, tout comme dans le travail de l'agriculteur. Labourage, ensemencement, croissance, récolte, battage, foulage, repos. Il y a un cycle. Il n'y a donc pas que l'épreuve dans la formation de l'homme spirituel. Cela me fait penser à cet homme qui voyageait pour la première fois dans un train à l'époque où l'électricité n'existait pas. Et il était dans un wagon en face d'un habitué du chemin de fer. Et voilà que, peut-être même entre Saverne et un autre endroit sur la ligne des Basses-Vosges, le train passe dans un des nombreux tunnels. Et l'habitué de la ligne de sentir son ami d'en face, son voisin, avoir peur, n'est-ce pas, être insécurisé, se raidir sur sa banquette de bois, et dans l'obscurité la plus totale, de lui poser la main sur le genou, de quoi lui faire peur encore davantage, mais de lui dire en même temps, écoutez, monsieur, rassurez-vous, nous ne sommes pas dans un sac, il y a un trou à l'autre bout. C'est ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Dans la formation de l'homme spirituel, il y a un trou au bout du sac. Il n'y a pas que des tunnels. Ils sont là, les tunnels. Mais il n'y a pas que, bien que, disons-le aussitôt, nous devons être lucides. Certains d'entre vous sortent peut-être d'un tunnel et respirent à plein poumon l'oxygène dans une merveilleuse vallée ensoleillée et disent « Seigneur, merci de ce que, enfin, je sois sorti de ces temps tellement sombres. J'ai l'impression de, de reprendre goût à la vie, de voir à nouveau les choses et les êtres avec un nouveau regard. Je te bénis. Souvenons-nous que là où le pessimiste voit le tunnel, et là où l'optimiste voit la lumière au bout du tunnel, le réaliste et le réalisme de la foi voient le tunnel, la lumière au bout du tunnel et le prochain tunnel. Et c'est parce que nous n'avons pas pris l'habitude de dire qu'après la lumière reviendra un tunnel pour une nouvelle étape dans notre formation spirituelle, que souvent ce nouveau tunnel nous désarçonne. Nous ne comprenons pas. Mais comment, Seigneur, est-ce possible? Est-ce que je vais repasser par là? Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Je l'ai dit hier soir, si nous avions eu le temps ou pris le temps, nous aurions évoqué celui qui a fait le poids dans la balance beaucoup plus que Saül dans cette opposition à David. À savoir, une des amitiés les plus pures, les plus belles et les plus spirituelles de toutes les Écritures présentes dans la même histoire. Dans la personne même du fils de Saül, Jonathan. La haine de Saül était féroce, mais l'amour de Jonathan pesait beaucoup plus que la haine de l'autre côté de la balance. Et cela me rappelle simplement que dans ces moments où nous passons par des détours incompréhensibles ou par ces tunnels qui nous raidissent, qui nous paralyse, notre Jonathan a promis de ne jamais abandonner les siens. Et au moment même où si souvent dans nos vies nous avons le sentiment qu'il est loin, 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 si loin, peut-être même au fond du tombeau, comme le pensaient les disciples d'Emmaüs, il est là, si proche, peut-être n'avait-il jamais été aussi proche d'eux que lorsqu'ils le croyaient encore pourrissant dans le tombeau. Deuxième leçon, elle est dans les versets 25 à 28. Dieu sait parfaitement faire la différence entre nous, parce que certains pourraient se dire, mais si je dois de surcroît, je veux bien connaître des tunnels, des difficultés, mais si je dois, pour devenir homme spirituel, passer par les mêmes souffrances que David, si je dois systématiquement côtoyer dans ma vie des Saül, des épreuves de l'envergure de celles que David a connues pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu, mais Seigneur, je préfère capituler tout de suite, abandonner, je démissionne. Les versets 25 à 28 nous disent que Dieu sait parfaitement faire la différence entre nous. L'un est orge, l'autre est blé, le troisième avoine. Nous sommes différents. Et Dieu le sait, parce qu'il est l'agriculteur et le cultivateur par excellence dans nos vies. Nous avons une place marquée dans le plan de Dieu, dans sa stratégie, et Dieu choisit donc soigneusement le traitement, l'épreuve, le parcours de chacun d'entre nous. Il n'y a dans le plan de Dieu ni arbitraire, ni désordre. Ce n'est pas volontiers, nous disent les Écritures, que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il n'est pas un despote, un dictateur qui se plairait dans l'arbitraire pour mieux affirmer sa souveraineté. Lorsque la souffrance est au détour de notre route, qu'elle frappe parfois tellement mystérieusement, souvenons-nous qu'elle vient toujours du cœur d'un Dieu saint, juste, égal à lui-même, et non pas d'une sorte de Dieu capricieux qui se plairait, pardon de le dire ainsi, dans un quelconque sadisme, comme s'y plaisent, hélas, trop souvent, les potentats de notre monde. Les épreuves et les tests sont donc soigneusement mesurés. Dieu respecte notre personnalité à chacun, tout en la purifiant. Dieu nous éprouve en fonction de sa connaissance parfaite de notre personne, mais aussi de ses plans, de ses objectifs pour nous. Je veillerai donc à ne pas regarder le chemin par lequel les autres passent, en ayant peur de devoir emprunter exactement le même chemin. Je veillerai à regarder à celui qui a prévu un chemin unique au monde pour moi, en fonction de sa connaissance parfaite et de la place qu'il m'assigne dans son champ. Troisième leçon, elle émane de l'ensemble du texte, mais surtout de sa conclusion. Dieu, c'est vrai, laboure toujours. Chacune de nos vies doit passer par le labour. Mais Dieu laboure toujours avec l'objectif de semer et de récolter à son heure. Il n'est pas de souffrance méritoire pour gagner le ciel, mais il n'est pas non plus de souffrance gratuite, simplement parce que Dieu voudrait s'offrir quelques petits plaisirs. Chaque souffrance sur notre route, énigmatique ou non, s'inscrit dans un objectif de fécondité. Dieu veut nous voir devenir hommes spirituels, parce qu'être homme spirituel, c'est être fécond. C'est pouvoir engendrer, c'est développer le fruit de l'esprit, le caractère de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de plus haute ambition pour le disciple de Jésus-Christ que de devenir de plus en plus semblable à celui qui l'a sauvé et que de porter aussi du fruit en fécondité dans la communication de l'Évangile à ceux qui ne sont pas encore sauvés, mais aussi à ses frères et sœurs qui ont besoin d'être édifiés, corrigés, encouragés, enseignés pour grandir avec lui. Admirable est son conseil et grandes sont ses ressources, dira le prophète Ésaïe devant une telle parabole. Je vous livre un texte qui est si riche à cet égard. Dans une usine, on voit poulies et engrenages, courroies tendues ou non, manivelles, rouages. Certains tournent très vite et d'autres lentement. Certains vont en arrière et d'autres en avant. Certains vont doucement et glissent en silence, d'autres cognant, claquant par saccades avancent. En une confusion, un chaos apparent, mais ils font leur travail, levant, poussant, tirant. Du plus puissant levier au pignon le plus frêle, ces choses de concert font ce qu'on attend d'elles et un esprit commande à cette activité, une main la dirige avec dextérité. Ainsi dans notre vie s'agitent tant de choses. Certaines, semble-t-il, à notre bien s'opposent, paraissent nous freiner, faire notre malheur, mais ensemble, elles visent notre plus grand bonheur. Tous nos vœux contrariés, les refus qui nous blessent, les contradictions qui nous troublent sans cesse, la force qui les hâte, les retarde et les tient, les pousse et les conduit, c'est la divine main. Il fallait que ce peuple si longtemps abandonné à lui-même soit éduqué. C'était un peuple indépendant, un peuple indiscipliné, comme nous le sommes tous, dans les premiers temps qui suivent notre conversion à Jésus-Christ, et hélas, parfois, trop souvent, pendant longtemps. Il fallait donc que ce peuple devienne obéissant, soumis, souple, maniable, disponible, ordonné, une armée équipée est capable de se battre et d'être victorieuse dans ses conquêtes. Alors pendant une année, le brisement de l'esprit d'indépendance devait se faire. La volonté propre devait être clouée bien à l'avance sur la croix. La confiance en soi devait être débusquée et dénoncée. Et il fallait donc les tests de l'obéissance par les épreuves du désert. Et vous lirez dans le contexte, dans les chapitres suivants, je pense au chapitre 15, lorsqu'il est dit qu'à Mara, verset 25, l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et cette expression revient ici et là durant cette année. Il fallait que le peuple soit mis à l'épreuve pour développer cette aptitude à l'obéissance immédiate, à la soumission, à la malléabilité, à la disponibilité entre les mains de Dieu. Il fallait donc apprendre à suivre la nuée sans rouspéter. Si nous nous réclamons de Jésus-Christ, nous ne sommes non seulement des disciples de Christ du dimanche, mais aussi ceux de la semaine, parce que la nuée ne conduit pas simplement les disciples de Christ à l'église le dimanche, n'est-ce pas ? Jour après jour, elle veut nous guider sur les chemins de la volonté de Dieu. Il nous faut donc apprendre à suivre la nuée tout au long de notre semaine sans rouspéter. Ceci nous est dit dans les versets 20 à 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit, dans le plan de Dieu. Et non pas, bien entendu, seulement le dimanche. J'ai peur que les chrétiens du dimanche, pardon de le dire, ne soient pas des chrétiens du tout, mais simplement des gens religieux. Parce que faire grève 6 jours sur 7, mes amis, ce n'est pas accepter dans sa vie la souveraineté du Dieu qui nous a sauvés. Nous avons un texte très fort à ce sujet. Nous allons le lire rapidement dans le livre des Nombres, au chapitre 9, verset 15 à 23, et je demanderai à ceux d'entre vous qui sont littéraires de retenir leur souffle, de bloquer leur respiration avec moi. Vous allez comprendre. Nombre 9, verset 15 à 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle. Elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ah, mes amis, Moïse, 0, 000. Est-ce qu'il y a un professeur de lettres parmi nous ? Qu'auriez-vous mis dans la marge d'un tel texte ? Lourdeur, répétitions inutiles, vous auriez pu dire la même chose en peu de mots, mes amis, mais le Saint-Esprit se moque des lettres. Quand il veut faire pénétrer dans nos esprits et de manière percutante le message dont nous avons besoin. Pendant une année donc, ce fut l'apprentissage de la fidélité de Dieu, de sa sécurité, de son amour, de sa puissance, de sa sagesse, dans ses multiples interventions pour développer la dépendance de la foi. Et puis le détour était nécessaire parce qu'il fallait passer au Sinaï. Le Sinaï, c'était l'école biblique nécessaire pour chacun d'entre nous, même si nous n'avons pas besoin d'aller forcément dans un institut ou dans une faculté. Nous avons les uns et les autres rendez-vous au Sinaï pour nous plonger, nous imprégner de la parole de Dieu et pour faire autre chose que simplement entendre parler de notre Dieu. Il faut que notre œil le voie. Et au Sinaï, le peuple d'Israël, bien sûr indirectement et heureusement, a pu contempler la sainteté, la gloire, la justice de Dieu et sa miséricorde les épargnant tout en les impressionnant. Il fallait ce détour par le sud. Sans Sinaï, il était impossible que le peuple pénétrât dans ce pays où coule le lait et le miel. Si souvent nous voudrions être hommes et femmes de victoire, de conquête, de succès, sans emprunter le chemin difficile qui passe par le Sinaï. Alors Dieu place de ses mains sur notre route pour nous amener, parfois même envers et contre tout tant il nous aime, à emprunter les chemins incompréhensibles qu'il a fixés pour que nous soyons vraiment ensuite les conquérants de la terre promise, que nous puissions gagner non seulement des batailles, mais aussi la guerre qui nous oppose à la puissance des ténèbres, que nous soyons, comme le dit l'Apocalypse, un peuple de vainqueurs. Il n'y a pas de raccourci pour devenir homme spirituel. Je pense à cet étudiant qui demanda un jour au directeur de l'école biblique qu'il se proposait de fréquenter s'il ne pouvait pas prendre un cours plus court que celui qui était prévu. Et le directeur de lui répondre, « Mais vous savez, cela dépend de ce que vous voulez devenir. Quand Dieu veut faire un chêne, il y met 100 ans. Mais quand il veut faire une courge, 6 mois lui suffisent. » Vous savez, j'ai peur, pardon de le dire. Je ne voudrais pas manquer de respect, mais pourtant je crois qu'il y a trop de courges dans nos églises évangéliques. Surtout dans nos pays d'Europe occidentale, où nous aimons bien tout ce qui est mouliné et prédigéré. C'est vrai que ça a été un peu difficile parfois. Mais c'est de cela que nous avons besoin. Ce sont là les défis que Dieu nous lance si nous voulons avancer. Trouvez-vous l'ensemble des Écritures faciles, vous ? Moi pas. Mais le plaisir du mineur, c'est de creuser jusqu'à ce qu'il arrive à la veine, de transpirer, de souffrir, et ensuite de pouvoir merveilleusement exploiter. Où sont nos ambitions, mes bien-aimés, dans le domaine spirituel ? Qu'avons-nous à cœur ? D'être sur le chemin qui serpente mollement dans la plaine, ou d'être sur les hauteurs, le long des précipices, mais de côtoyer la présence de Dieu, de connaître les délices de cette présence dans son cœur, de pouvoir mûrir, de pouvoir avoir beaucoup plus un avant-goût du ciel parce qu'on accepte de fréquenter des chemins que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, mais que si peu d'entre nous fréquentent. Ma conclusion est toute simple. Premièrement, Dieu ne voit pas les choses du même œil que nous. Il sait de quoi demain sera fait. Certains détours, certaines attentes éprouvantes, certains contretemps sont nécessaires même si nous ne les comprenons pas aujourd'hui. Il est une carte postale qui, pour ma vie, dans le courant de l'an dernier, qui a été un temps difficile, où il m'est souvent arrivé de dire à Dieu, « Mais Père, je ne te comprends pas. » Eh bien, il est une carte postale qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a été curieusement remise ou en main propre ou par le courrier à 3 reprises, sans que les amis qui me l'envoyaient connaissent le tunnel
par lequel je passais. Et cette carte était chaque fois la même. Père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Et je me souviens de ces longs mois où chaque fois que j'entrais dans mon bureau le matin, mon regard se fixait sur cette carte, là, sur le bureau. Et je le disais de tout mon cœur à haute voix, « Père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. » Deuxième élément de cette conclusion, le chemin le plus court en apparence n'est pas toujours le meilleur dans le plan de Dieu. Sauf précisément quand il s'agit de tunnels. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un tunnel, c'est fait pour aller plus vite. C'est le seul raccourci que Dieu s'autorise dans notre formation d'homme spirituel. Le tunnel. La voie des circonstances difficiles est la voie qui permet souvent la croissance la plus rapide. Mais bien entendu, Dieu nous connaît. Et puisqu'il sait ce que nous sommes capables de supporter et ce que nous sommes encore incapables de supporter, tantôt il choisit le tunnel, plus ou moins long. Il y a Hartzwiller de temps en temps dans le plan de Dieu. Mais tantôt aussi, il choisit le col du Grand Saint-Bernard. C'est long. On pose des questions, on a l'impression qu'on ne sera jamais là-haut. On dit, mais Seigneur, pourquoi pas prendre le tunnel routier ? Ça irait tellement plus vite. Non, surtout pas. Surtout pas. Va lentement. Tu ne comprends pas, mais fais-moi confiance. Et alors, quand on arrive là-haut, n'est-ce pas ? Combien c'est beau d'avoir accepté d'emprunter une voie sinueuse, en lacets qui n'en finissent pas, mais de contempler ensuite la bonté et la fidélité de Dieu. Et enfin, dernièrement, certaines souffrances sont destinées à nous apprendre la marche dans l'obéissance à l'Esprit et non à nos impulsions sentimentales et autres. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et Dieu veut détacher notre regard de toutes les contingences humaines afin que nous apprenions, et c'est là le secret de notre stabilité spirituelle et humaine, afin que nous apprenions en toutes circonstances à toujours regarder à celui qui ne change pas. Quand le grand inventeur américain Edison était jeune, un de ses amis s'étonnait un jour de trouver la porte d'entrée de son domicile toujours très dure à ouvrir. Et il lui dit, mais un grand inventeur comme vous devrait avoir une porte facile à manier. Et vous n'auriez pas beaucoup de peine pour trouver un système donnant plus de souplesse à votre porte. Et Edison, pratiquement d'éclater de rire en disant oh, « Je sais très bien que ma porte est dure. » Car chaque visiteur qui la pousse fait en même temps monter par une combinaison de mon invention une certaine quantité d'eau dans la citerne qui est sur le toit. J'ai toujours assez de visiteurs pour n'avoir jamais besoin de pomper moi-même mon eau. Mes bien-aimés, il est un plus grand inventeur qu'Edison. Quand il place des résistances devant nous, et que nous sommes tentés de lui dire, écoute, un inventeur comme toi, hein, toi qui as créé le cosmos et l'homme, tu n'as pas d'autre moyen que cela. Eh bien, Dieu nous répond, mais tu sais, tes peines, tu ne t'en doutes pas. Tu ne le comprends pas. Tes peines préparent, sans que tu t'en rendes compte, les bénédictions dont tu seras toi-même arrosée. Tes difficultés, tes détours, tes mets incompréhensibles font monter l'eau qui redescendra sur toi pour te rafraîchir et te faire grandir. Dieu ne peut te laisser voir toujours ton chemin. Marcher, mais par la foi. Tel est l'ordre divin, Dieu ne peut de ta route enlever chaque pierre, tu lâcherais bientôt sa tendre main de père. Dieu ne peut t'épargner ni les pleurs, ni la croix, ni le joug qui t'oppresse et t'irrite parfois. Il faut jusqu'au fond boire la coupe amère. Il faut, pour vivre au ciel, passer par le calvaire. Il faut que la douleur nous guide pas à pas vers un but que sans elle nous ne poursuivrions pas. Souvent à la nacelle, il faut un vent d'orage pour que les matelots pointent droit au rivage. Souvent à la brebis, il faut prendre un agneau pour qu'elle entre au bercail avec tout le troupeau. Ainsi, dans son amour, Dieu permet la fournaise. Il l'attise parfois plutôt qu'il ne l'apaise. Mais ce Dieu tout-puissant a dit que pour les siens, le feu ne brûlerait jamais que les liens. En Dieu qui te conduit, mets donc ta confiance. Chante, si tu le peux, un hymne d'espérance. Peut-être en t'écoutant, un cœur auprès de toi, triste et désespéré, retrouvera la foi. Qu'importe si ta voix hésite, pleure ou tremble, Dieu permet de pleurer et chanter tout ensemble. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons simplement venir les uns et les autres déposer à la croix nos mets, nos pourquoi, nos rébellions, nos amertumes, nos angoisses. Tout ce qui fait que, dans notre incompréhension de tes voies, nous avons parfois tant de peine à nous soumettre à ta volonté, quelle qu'elle soit. Seigneur, pardon, mais en même temps, merci. Merci de pouvoir, à la fin de ce culte, te dire, Père, oh, je suis loin de te comprendre toujours. Je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Je te bénis pour tes desseins en ma faveur. Admirable est ton conseil. Grande est ta sagesse. Je te bénis, Dieu souverain, éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ.